des choses. La revue sonore.
Le grain des choses est une revue sonore à feuilleter avec les oreilles. Par les chemins de la création, elle voyage du documentaire à la fiction, des grands entretiens au journalisme au long cours, de la poésie au paysage sonore, pour faire entendre le grain des choses. La revue sonore et Fréquence Mistral se sont rencontrées pour faire un bout de chemin ensemble. Nous vous souhaitons une très belle écoute. Je vis à Bruxelles depuis pas mal d'années, mais j'ai grandi dans les Hautes-Alpes. Vivre au-dessus de 1000 mètres d'altitude, c'était vivre sous l'influence des saisons. Les neiges, les très grands froids, le vent, les longs étés secs aux lumières vives, sans un seul nuage pendant des semaines. Les mois de novembre, au ciel de pluie, gris et épais, qui masquaient entièrement les montagnes. Les printemps, parfois trempés, qui se couvraient brusquement d'étendues de fleurs. Ça crée un attachement très physique au lieu. Moi, je m'en suis rendu compte une fois que je suis partie. À 18 ans, pour étudier, on fait son sac et on quitte le pays. Après mes études, j'ai fait le choix de rester vivre ailleurs. Et quand je reviens de la ville. Le printemps dernier, je suis venue pour écrire. Je me suis installée dans le village où avaient vécu mes grands-parents. J'y ai encore de la famille. Notamment des cousines et des cousins qui y vivent avec leurs enfants. J'avais aussi apporté mes micros. Ça fait longtemps que je fais des enregistrements là-bas.
Bonsoir.
Peut-être prendre un livre ou quelque chose pour pas faire du bruit avec les caplas. Claire va enregistrer. Viens voir, c'est intéressant, viens. Avec le micro.
De quoi ?
Depuis 2009, on fait des fromages. Parce que le lait aussi, c'était, on pouvait pas s'en sortir.
Avec les vaches seulement ?
Non, vaches et chèvres.
Ouais.
Donc on a développé les chèvres aussi. On avait des chèvres allaitantes qu'on a fait passer en chèvres laitières.
D'accord. Parce que vendre uniquement le lait,
c'était... Ben non, parce qu'ici, on achète pratiquement tout. Le foin, le grain, la paille. Donc, on faisait un grand écart, quoi. C'était trop dur. Le prix du lait n'était pas valorisé. Et donc, c'est pour ça qu'on a redémarré. On a démarré à faire... On a démarré une fromagerie. Voilà.
Donc ça change complètement.
Complètement. Ça nous permet aujourd'hui de vivre à 4 foyers dessus. Donc mes 3 filles et moi.
Ouais.
Donc les 3 filles, chacune un foyer. Et François et moi, quoi.
Ouais.
Voilà.
Et vous, au niveau de l'année, comment ça se passe par rapport à une année aux différentes altitudes, aux différents...
Le travail... En extérieur, les animaux ne peuvent sortir que le 11 mai. Ça, c'est pour les petits ruminants, les brebis, les chèvres. Et normalement, début juin.
Bonjour.
Début juin pour les vaches, les bovins. Mais maintenant, comme on a un parc, on peut sortir les bovins plus tôt. Les génisses, en tout cas, plus tôt, parce qu'on les met en parc là-haut, au champ, dans la haute vallée. Donc mettre les animaux tôt sur des pâturages de kérel, c'est bon parce qu'elles coupent, elles mangent ce kérel qui les engraisse très très vite. Au bout d'une semaine, elles ont le poil brillant, elles sont magnifiques. Et donc, 4 mois d'estive,
oui.
Et les premiers froids nous font redescendre.
D'accord. Et les chèvres, donc, elles sortent aussi à la mi-mai, alors?
Voilà, elles n'ont pas le droit, chèvres et moutons n'ont pas le droit de sortir avant le 11 mai.
Mais ça, c'est une date, le 11 mai, c'est une date
décidée, non, parce que les anciens, avant, c'était le 7 mai.
Au début mai, non, on les sortait.
Ouais, 5 ou 7 mai, on les sortait. Ils ont un peu repoussé parce qu'il n'y a plus rien, quoi. Il n'y a plus rien.
Parce que ça ne pousse pas assez, c'est pas assez poussé.
Parce que un peu les saisons ont changé, un peu ça a été. Les pâturages ont été détruits surtout. Trop surpâturés à l'automne et au printemps. Les énormes troupeaux qui passaient et qui raclaient tout, beaucoup trop tôt, ils ont détruit le pâturage. Mmh. Au printemps, comment on dit le dicton ? La bête peut attendre.
Non. Le mouton doit attendre. L'herbe, et non l'herbe, le mouton.
Voilà.
Comment vous arrivez à vous adapter ou à...
On subit. On s'adapte pas, on subit.
Je regarde autour de moi. Qu'est-ce qui est resté identique ? Et qu'est-ce qui a changé ?
Vous allez bien ?
Ah ben moi, je suis éleveur. J'ai repris la ferme de mes parents en 84. Ben, il y avait le bâtiment et les bêtes. Alors, j'ai continué. Et les terres. Voilà. Et voilà, avec des moutons, quoi. 180 en 20. Et après, on a décidé, avec ma femme Bernadette, d'ouvrir une ferme pédagogique. Hein. Enfin, on le faisait déjà, mais on recevait des classes, mais gratuitement. Et puis, on n'avait pas de salle. Alors, on s'est dit, on va agrandir pour faire une salle pédagogique, pour recevoir les classes, et puis les particuliers, quoi, les touristes. Mmh. Depuis 2012. Ben, bon, l'hiver, on s'occupe des moutons. Après, ben, il y a la tonte, hein. En hiver, il y a... Voilà, on est obligé d'étendre une fois par an.
Et puis, il y a
l'agnelage qui est au mois de mars. Hein. Mais l'agnelage, c'est quand les brebis vont faire leur agneau. Hein. On ne dit pas accoucher comme chez les humains. On dit ou agneler ou mettre bas. Quoi. Donc là, c'est un gros boulot. Ça commence à partir du 15 mars. Et en 20 jours, 30 jours, enfin le gros, ça naît tout hein, voilà, en 20 jours. Quoi. Moi, là, il est né 180 agneaux en 20 jours. Ah non, là, non, je suis toujours tout seul. Je suis toujours tout seul. Ben, mon fils, de temps en temps, il est un peu venu, là, au moment de l'agnelage, le soir, quand, après son travail, venir un peu m'aider. Mais bon, c'est surtout beaucoup de présence, jour et nuit. Hein, c'est, oui. La nuit, il faut venir toutes les deux heures, quoi.
Oui. Est-ce que le printemps est plus mouvant, plus instable depuis quelques années avec les...
On n'a pas des jolis printemps comme avant. On a surtout des beaux automnes, mais le printemps, voilà. Pas terrible, ça fait 3-4 ans que c'est comme ça. Et
oui.
Voilà. Mais on s'aperçoit qu'il y a quand même moins de neige, quoi. Mon père, il a fait les relevés pendant 50 ans en cumul. Il y a des années, c'était entre 15 et 18 mètres de cumul. Après, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a quand même des gros, gros, gros orages. Ça tombe d'un coup et puis voilà. Avant, c'était des pluies de 2-3 jours qui continuaient. Là, ça tombe d'un coup, ça ravine tout et puis voilà. Et puis, il y a aussi, nous, on s'aperçoit que des arbres fruitiers, voilà, ils poussent ici. Des abricots poussent ici. Qu'avant, les abricots, il n'y en avait pas. Nous, on a eu un premier abricot qui a donné des fruits une dizaine d'années, quoi.
Pendant la journée, je fais beaucoup de visites. Et le soir, je me mets à l'écriture. Je suis arrivée avec le début d'une histoire et tout reste à faire. Ça va m'aider d'imaginer que les choses se passent ici. Enfin, qu'elles pourraient se passer ici. Je connais bien les lieux. Et puis, je peux y réfléchir avec celles et ceux que je rencontre. Ça aussi, ça va m'aider.
Cette histoire, elle se passe dans, on pourrait dire, 15, 20, 30 ans. Ça, c'est encore à définir. Dans un moment, on pourrait imaginer qu'on peut vivre en plus haute altitude, par exemple à 2000 mètres, toute l'année. Les terres qui sont plus basses, les villes, Hop, une ville. Ça devient invivable. C'est plus de 30 degrés.
Oui, oui, oui.
C'est 40. C'est 45
avec
degrés.
Avec le réchauffement climatique, oui. Non, mais...
En tous les cas, on ne sait pas exactement ce qui va se passer en montagne, mais on voit bien ce qui va se passer pour le moment dans les villes. Donc forcément, les gens qui sont là, dans les villes, il faut absolument qu'ils trouvent un autre endroit et ils se disent peut-être, on a l'opportunité, on a trouvé une terre, on a un premier bout de terre, mais ils ne seront sans doute pas seuls à avoir envie de ce projet, on peut imaginer. Donc à un moment donné, la question du partage des terres, elle va devenir très tendue.
Ça sera super tendu. Moi, je pense que quelqu'un, s'il n'arrive pas avec beaucoup de terrain, il ne pourra rien faire.
Dans cette histoire, il y a un frère et une sœur. Le frère part se réfugier en montagne, alors que la sœur, elle, reste vivre dans la fournaise des villes.
Salut Sœurette, je te laisse ce message sans savoir si tu vas pouvoir l'entendre. Le réseau ici est assez chaotique et parfois, il est même carrément inexistant. J'ai trouvé un coin devant la maison pour m'installer. Tout le monde est déjà couché, mais moi, j'ai du mal à dormir. C'est le grand calme. Je pense souvent à toi. Pourquoi t'as pas voulu venir avec nous? Si tu voyais, le ciel est gigantesque. C'est incroyable. Alors on est pile à 2000 mètres. Il y a une vingtaine d'années encore, on pouvait vivre que 6 mois par an à cette altitude. Les agriculteurs descendaient aux premières neiges. Mais... maintenant qu'on peut y rester toute l'année, il y a pas mal de monde comme nous qui voudrait s'installer. Ça crée quelques tensions avec les gens d'ici. Le village est très divisé sur la question d'accueillir ou pas. Certains se sentent envahis. Moi, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, pour les nouveaux et pour ceux qui sont déjà là. C'est pas incompatible. Enfin, on va voir. Papa me dit qu'il nous avait emmenés ici quand on était petits. Tu t'en souviens, toi?
Alors, je vois ce que vous voulez faire. Là. Je vais vous donner une idée. Et puis, vous, vous en ferez ce que vous voulez. Je prendrai comme coin l'Éprache. L'Éprache, c'est un coin qui est assez grand. Il y a de l'eau, ils ont arrosé beaucoup.
Oui.
Il y a un canal qui descend du Rimont et qui vient à la Chaux. C'est important, l'eau. Hein.
Et c'est bien ensoleillé. En
c'est bien ensoleillé. Dedans. Il y a un beau plateau. Il y a des pâturages au-dessus, des pâturages vers le Bourget. S'il y avait un groupe qui dirait, ben, ma foi, on va s'installer au Crache, ça pénaliserait personne.
Le hameau des Fraches, c'est à 2000 mètres, dans la haute vallée au-dessus du village.
Bonne vieille carte papier. Alors, tu montes par une petite route pleine de lacets. Qu'est-ce que je peux te raconter?
Cette route, elle part du village et monte en direction de la frontière italienne, jusqu'à ce qu'elle arrive dans cette haute vallée. La rivière qui y coule forme un marais d'altitude, avec des tourbières, des trous d'eau et des fleurs de coton. C'est une zone humide aujourd'hui protégée, qui contient une très grande diversité biologique et florale. L'été, on récolte le foin et certains de ses versants servent de pâturage. Et les Fraches, c'est justement là. Nous sommes à 2000 mètres. C'est là qu'aurait pu se construire, dans les années 70, une méga-station de sport d'hiver. On y pensait grand standing et clientèle de luxe. On parlait de 15 000 à 40 000 lits, d'un lac artificiel, d'un héliport et de terrain de golf. À partir des années 60, la plupart des vallées de montagne ont été transformées en stations de ski. Ici, il aurait suffi de racheter les terres pour une bouchée de pain. Mais la plupart des habitants et habitantes du village ont refusé de vendre, malgré les pressions politiques et financières.
Ils se sont battus pour protéger leurs terres et leurs exploitations, et ils ont remporté la bataille. Cette histoire de lutte a engagé une partie de ma famille. Mes parents, certains oncles et tantes, ma grand-mère, et mon grand-père, lui, qui a accepté d'endosser le rôle de mère et qui l'a tenu jusqu'à sa mort.
Coucou Julien. Ça va?
Ouais, ça va. Ça va, ça va.
Julien, c'est un de mes cousins. Il s'est installé ici il y a peu.
Je pense qu'on va être juste au moment où ça va passer au soleil. Ah,
parfois, j'avance seul dans mes rencontres et parfois, je le suis.
Bonjour.
Et salut. Vous avez de la visite?
Je vous suis, mais je m'écarte dès que ça...
Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Non, mais il n'y a pas de souci.
Ça va? Donc ça, c'est du maraîchage.
C'est du maraîchage, là, des salades plantées cette semaine. Pour avoir des salades fermées, un mois après. Et là, c'est mes pépinières.
D'accord, ça c'est salade aussi.
C'est tout des salades. Mais
ouais.
Non, il y a des salades, il y a des du persil, céleri.
Mais le maraîchage c'est assez rare.
Ah non, il y en a pas. Voilà, parce qu'avant c'était pas dans la culture de montagne, c'était l'élevage. Et là, bon, les anciens faisaient toujours du jardin, ils avaient toujours des jardins pour avoir des légumes l'hiver, mais c'était pas c'est assez récent, ouais, le maraîchage en montagne c'est assez récent, ouais.
Si c'est pas une tradition, c'est une envie de...
Non, ça fait de bons légumes.
Oui.
Voilà, les salades, vraiment tous les légumes qui sont produits en montagne, ça n'a pas le même goût que les salades importées de plaine.
Oui.
Voilà.
Pourquoi ça se développe maintenant? Est-ce que c'est lié au climat?
C'est pour diversifier. Ouais. Diversifier les productions et puis ça, c'est assez rentable. Bon, moi je vais faire maraîchage l'été et un peu de construction l'hiver. Mais voilà, ça demande un investissement moins lourd que l'élevage et c'est,
oui, un
et c'est plus rentable.
Oui, un investissement au départ, ouais, c'est ça.
Voilà.
Sur une toute petite saison alors.
Voilà, sur une petite saison. Très courte, mais assez intense.
Ouais.
Et ouais, le matin, il gèle encore. Ben, il gèle. C'est. Là, ce matin, il a fait 4 degrés.
Ouais.
Il a fait 4 degrés dehors et on gagne à peu près 1 degré. Ben, disons qu'il gèle jamais dans la serre.
Mais du coup, vous avez quand même un rapport expérimental.
Eh ben, j'expérimente. Là, vous voyez, le goutte à goutte, ça n'existait pas.
Ouais.
L'utilisation pour les pommes de terre et ainsi de suite, bon, ça n'existait pas non plus. Et oui.
D'accord.
J'ai toujours cette idée de recherche, oui.
Ouais. D'accord.
Voilà, c'est.
Parce que par rapport à des températures, l'éventuelle augmentation des températures, c'est une chose que vous anticipez par rapport à ce que vous cultivez?
Ici, on aura des températures moins froides en hiver, mais plus froides en été. Nous, bon, on était déjà bien arrosés, mais peut-être qu'on aura un peu moins d'eau. On aura moins de neige en hiver et on aura peut-être des étés plus pluvieux et plus frais. L'homme s'adaptera.
Qu'est-ce qui te donne confiance dans l'avenir en tant que père?
Eh bien... Mon père est né en 1941. Ça mitraillait dur, hein. C'est, la réponse, elle est là, non? Si on dit, voilà, on va pas faire des enfants parce qu'il n'y a pas d'avenir pour eux. Depuis que le monde est monde, il n'y aurait pas d'humanité. Hein. C'est vrai que c'est pas. On arrive à des temps difficiles, mais on se bat et puis ils se battront aussi. Battront en façon de parler. Voilà.
Tu disais que l'immobilier, quand même, avait tendance à exploser, à monter.
Ah oui, ces dernières années, ça. Ben là, on pourrait pas, nous, maintenant. Construire ou acheter une maison.
Oui, parce qu'il y a forcément aussi ce mouvement
des gens des villes qui passent des étés un peu catastrophiques avec les canicules et tout ça. Donc il y a forcément un appel d'air, une envie de vivre dans des endroits plus,
ben oui, plus agréables. Mais souvent, ces gens-là, ce sont des gens qui ont des bonnes situations,
oui,
qui peuvent se permettre de travailler chez eux. Ce sont des, voilà, et ça, je trouve que c'est un gros problème pour les gens... les gens du coin, entre guillemets, qui ne peuvent pas forcément déménager ou qui ne veulent pas changer de région ou qui veulent simplement habiter là où ils ont toujours vécu. Et voilà, après, c'est que ça va devenir... Donc, il va y avoir, s'il y a encore plus de gens comme ça, c'est vrai que bon, les villages perdent un peu leur, leur âme, puisque de toute façon, c'est des gens qui dorment là, qu'on ne voit pas. Oui. Et il y en a qui n'ont pas forcément envie de voir les autres, qui préfèrent rester tranquilles chez eux. Donc ça, les mentalités de village changent quand même. Mmh. Voilà.
Toi, tu disais, il faut que la personne qui arrive
soit ait un héritage.
Hérité de...
Oui. Voilà. Donc pour ton projet, c'est... il faut que tu partes là-dessus si tu veux que ce soit... un peu crédible. Et si ta personne, oui, n'a pas hérité d'un nombre d'un mètre carré de terre suffisant ou de terre attenante pour lui permettre, oui, de faire son projet, il va falloir qu'elle échange des terres. Et puis se débrouiller pour avoir un grand morceau...
où la personne loue les autres
où
terres.
Où tu loues.
Si quelqu'un veut bien, voilà, lui louer.
Salut Sorette, bon, comme d'hab, tu réponds pas. Je te donne quand même des nouvelles. Papa est en forme, mais depuis qu'on est arrivé, il se fait examiner sous toutes les coutures. Alors, c'est toi l'arrière-neveu d'Augustine? Personne ne l'avait vu depuis des années, mais pas de doute, c'est bien lui. Papa, l'héritier. Il a parfois du mal à tenir son rôle de propriétaire terrien. Il a vraiment pas le profil. Et si on n'avait pas décidé de retaper la maison d'Augustine, il serait peut-être jamais revenu ici. Tu sais, avant de monter, on a passé plusieurs semaines au village pour les derniers préparatifs et pour expliquer aussi qui on est, ce qu'on vient faire. Ça en a rassuré certains qu'on s'installe pas comme agriculteur. On cherche juste à être le plus indépendant possible. On avait tablé sur avril pour commencer les travaux, mais l'hiver est revenu d'un coup. Une tempête de neige, des vents violents, ça a surpris tout le monde. Surtout que la neige, ils ne l'avaient pas beaucoup vue cet hiver. 2 jours après le coup de froid, la température est montée de 20 degrés. Ça fondait, ça glissait, il y avait de l'eau, de la boue partout, c'était le chaos. Finalement, les matériaux pour le chantier ont fini par arriver. On a fait monter des poutres, des panneaux solaires, des turbines, des batteries, une dizaine de voyages en hélico. Il fallait bien ça. C'est vrai que c'était pas très discret. Bon, le terrain est pas très grand. Ça va être un peu serré pour le maraîchage et les bêtes. Il faut qu'on parvienne à regrouper d'autres terres autour du hameau. Il faut déjà qu'on trouve les propriétaires. Et je dois dire qu'on se fait bien balader. C'est la nuit. Le ciel est clair et lumineux. J'aimerais bien que tu vois ça. Et toi? J'espère que tu as un peu de répit avant les grosses chaleurs.
Le grain des choses. La revue sonore.
Alors, un petit café.
Moi, longtemps, je me suis considéré, enfin, je me le suis dit tardivement, comme un étranger familier. Mmh. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas d'ici, mais que les gens voient quand même. Ils savent un peu qui c'est, plus ou moins. Et qu'en grandissant, en m'écartant un peu du système familial, en devenant photographe, en passant des séjours seuls à Servières il y a quelques années, j'ai trouvé très inconfortable, justement, de me sentir un étranger familier. Je me suis dit, mais ça fait des années que tu te poses la question de partir de Paris, partir pour aller où, partir pour quoi faire et pour quelle raison. Et puis là, en fait, bah, finalement, les choses sont simples. Tu sais comment ça marche, tu connais tes biens, tu trouves des choses qui sont importantes, à savoir le calme, l'espace, la beauté, ce climat incroyable où il y a quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de soleil. Et puis, en fait, à ce moment-là, j'avais déjà pas mal d'amis ici. J'avais eu un premier cercle à travers mon métier de photographe avec des expositions qui ont commencé en 2013. Et donc là, je me suis fait beaucoup d'amis à Briançon et alentour. Voilà. J'ai envie d'être un peu binaire, en fait, dans le scénario. Soit tu te dis, ça va être super dur, parce que quelle légitimité les gens vont leur donner ici pour avoir le droit de s'intégrer, et en particulier d'acheter des terres. Et comment ça peut se passer si on est dans un avenir où ce sentiment, on va dire, de précarité alimentaire commence à se développer ici. Moi, j'imagine dans ces cas-là plutôt des tensions beaucoup plus fortes entre familles d'agriculteurs, parce que tout aura plus de valeur, y compris l'eau. Ça peut très mal se passer aussi.
Salut Sœurette. Bon, je te laisse un message. J'espère que tu vas bien. Ici, ça se passe... c'est pas que facile. On s'est pourtant bien préparé. 2 ans à tout penser. Tom à la culture et au maraîchage. Saskia et Massimo pour les bâtis. Lila et moi à l'énergie, Liam pour la mécanique, papa vétérinaire, ça nous ouvre pas mal de portes, et Adèle apprend et l'épaule. On a très vite construit les serres. Par contre, pour les céréales, ça a pas mal discuté. Planter au mois de mai, c'était risqué. Mais c'est Tom qui a fini par trancher. Les saisons en montagne sont courtes et on a semé. Et puis, la température a chuté une dernière fois. On s'est pris un coup de gel et on a perdu une partie des semences. Ça nous a bien mis par terre. J'ai l'impression que ça en a fait rire pas mal. Un des vieux du village nous a dit que notre projet ne sera jamais rentable. C'est pas la question d'être rentable. On cherche juste à être le plus indépendant possible. Ta pote Gabrielle nous a contactés. Elle va passer jeter un coup d'œil sur l'installation des turbines à eau. On l'attend de pied ferme.
Cet imaginaire-là, moi, il ne m'excite pas tellement. J'ai plutôt envie d'aller dans le deuxième imaginaire, qui est beaucoup plus optimiste, qui serait un imaginaire où, finalement, la tendance actuelle de repeuplement se poursuit. Et on pourrait aussi imaginer qu'en fait, il y a un sentiment de collectivité qui se développe avec l'idée qu'en fait, on a de la chance ici. On a quand même de la chance. C'est un peu Astérix et Obélix, c'est-à-dire que l'envahisseur pourrait être perçu comme soit le climat, soit les citadins qui veulent profiter du territoire, et qu'en fait, plus ça irait, plus ici, on se dirait, on a de la chance, il faut qu'on préserve cette chance ensemble. Qui serait un changement, je pense, de mentalité progressif, mais qui ferait que, par exemple, des gens qui auraient un projet comme celui que tu décris seraient accueillis de manière beaucoup plus positive que ce qu'on peut imaginer aujourd'hui avec les mentalités de certaines vieilles familles. C'est plutôt ça, d'ailleurs, qui pourrait se produire à l'avenir, parce que clairement, quand je discute avec les gens qui sont comme moi arrivés assez récemment, il y a des attentes, il y a des désirs qui sont des désirs de collectif, qui sont des désirs de, à la fois, protéger le trésor, j'ai envie de dire le trésor de guerre qu'on constitue cet environnement et sauvage et agricole. Et voilà, et donc moi j'imagine plutôt ça, parce qu'il n'y aura pas le choix.
Je vous annonce qu'il fait 7 degrés. Et on n'est pas encore en haut.
Gavi, là, on va essayer d'y monter, mais il pleuviote. Et là, elle est dans un nuage.
C'est le seul hameau de toute la commune dont je ne connaissais pas l'existence. Et c'est un des plus impressionnants, parce que tu as vu la taille des murs devant nous. Je dirais à vue nez, il y a bien 5 mètres de murs de pierre. Là. Alors je vais regarder la carte juste pour te dire l'altitude. Alors, où suis-je sur la carte de l'autre côté? La Gavi, donc on est à 2050 mètres ici. Bon, donc à peu près 2000 mètres quoi. Donc 2000 mètres, ça veut dire que oui, normalement, en tout cas en ce moment, c'est inhabitable pendant plus de 6 mois de l'année quoi. Moi à chaque fois que je viens, j'essaie envie d'imaginer les gens qui habitent là.
Oui.
Ou j'ai envie d'imaginer que j'habite là en fait.
Oui.
Et comment on vit là-dedans, dans cette maison une fois reconstruite qui devait être très douillette. Il y a deux autres petites maisons plus loin, il y a une maison un peu plus grande en dessous. Donc on imaginait aussi qu'il y avait peut-être plusieurs familles, par exemple.
Mmh. Ah oui, oui. Donc toi, ton scénario, ce serait quand même la Gavi, plutôt. Enfin, c'est là que t'aimerais bien que l'histoire se passe.
Ah oui. Ah oui, c'est l'emplacement, en fait. Déjà, c'est l'emplacement. Moi, le fait d'être sur un promontoire et d'avoir la vue, c'est... J'adore être au-dessus, voir au loin. Alors tu notes aussi qu'ils ont beaucoup de bois tout près aussi. Hein.
Mmh.
Enfin, ils avaient, hein, parce qu'on a des forêts de mélèzes... On en a de ce côté-ci un petit peu en contrebas et on en a juste et un peu plus loin et on en a en face à Lubac. Donc ils devaient certainement pas manquer de bois. Donc il y avait aussi, c'est décisif, donc ils avaient la pierre et le bois pour construire. Ils avaient vraiment tout sous la main ici. Et donc l'eau, et on va aller voir, le torrent. Et là, il y a un petit filet, il y en a quand même, mais il y a un petit filet qui n'est pas du tout habituel à cette saison-là, hein. Pas du tout. Normalement, les chemins deviennent des cours d'eau d'une certaine façon, tu as de l'eau qui dégouline de partout à cette saison-là, et là, ce n'est pas le cas,
ouais.
Message. Gabriel est arrivé il y a 2 jours. Après un tour du propriétaire, elle nous a dit que pour des réfugiés climatiques, on avait vraiment le cul dans le beurre. Qu'est-ce qu'elle croit? Que ça tombe tout cuit du ciel? D'accord. On part pas de rien. Il y a l'héritage de papa et le capital de départ qu'on a réussi à mettre en commun. Mais c'est pas du tout sûr qu'on puisse s'en sortir. Avec l'hiver qu'on a eu, on a dépassé tous les records. Le plus chaud, le plus froid, le plus sec, le plus venteux. Ça a provoqué une série de coupures de courant dans toute la région. Nous, en haut, avec notre équipement, on a pu s'en sortir. Notre système est suffisamment robuste. Mais on a bossé dur pour tout ça. Ça marche plutôt bien. Très bien même. Une vraie centrale électrique à 2000 mètres. On a même pu filer un coup de main au village quand les coupures ont duré. Bon, sinon les nouvelles, on a acheté 2 nouvelles bêtes. 3 génisses, encore quelques moutons, 3 chèvres et 2 chevaux de trait. Ça fait pas mal de monde. Avec les terrains derrière jusqu'à 2500 mètres, on n'a pas à rejoindre les troupeaux communaux. Il y en a qui disent qu'on a pris une partie des terres nécessaires à l'élevage. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça ? Il faudrait se contenter du potager et du maraîchage? Et pourquoi pas ramener les enfants dans la fournaise et dans la foulée revendre les maisons et les terrains et laisser la place? Est-ce qu'on a le choix?
Depuis, tu m'as dit 14 ans
plus. 14 ans.
14 ans.
Oui, c'est ça.
Est-ce qu'il y a des choses qui, pour toi, ont bougé
En tout cas, par rapport à mon enfance, où je me souvenais où tout l'hiver, c'était le grand ciel bleu, même toute l'année, en fait, j'avais l'impression qu'à chaque fois que je venais, c'était vraiment le grand ciel bleu. Je ne retrouve plus ce ciel bleu. Après, au niveau climat, je pense qu'on a un peu moins de neige quand même. Et après, sinon, qu'est-ce qu'on a beaucoup aussi? Moi, je trouve que ces dernières années, on a beaucoup de vent, que ce soit l'été, même l'hiver.
Toi, c'est quelque chose qui pourrait t'inquiéter ou
C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas une chose qui me préoccupe énormément. Mais peut-être tout simplement parce que je prends pas le temps de me questionner ou de m'interroger sur cette question. Et puis je pense que le fait qu'on vive aussi en altitude, peut-être qu'on voit moins aussi, par exemple, ces canicules. Tu sais, nous, on a toujours quand même un petit air frais, ne serait-ce que la nuit.
Ouais, ouais.
À la tienne, au beau jour qui arrive.
À la tienne. À la tienne.
Qu'est-ce qui vous a amené à être ici?
Mais moi, je parle un petit français, hein, petit français. Mais je vais essayer pour parler plus.
Il y a un an et demi maintenant, je ne dis pas de bêtises. On avait trouvé un petit fonds de commerce. Un petit fonds de commerce à acheter, et c'est comme ça qu'au début on s'est dit bah tiens, on reste ici.
Ouais.
Et puis finalement, le fonds de commerce s'est pas fait parce qu'il y avait eu le confinement, etc.
Ouais.
Et voilà, les gens appréciaient la nourriture de Saï, donc on s'est dit bon bah c'est peut-être, il y a peut-être quand même quelque chose à faire ici, même si c'est pas un restaurant. On a acheté un food truck et maintenant on fait les marchés. Voilà.
Donc vous arrivez, redites-moi comment vous retrouvez ici.
Notre amie on était à Briançon, qui nous a logés au départ, et elle nous dit bah, moi j'ai bien mon appartement. Par contre, il fait très froid, on se dit on était un peu. Voilà. Et puis le jour où on a vu l'appartement, on a dit non, mais on veut vivre là.
Oui.
Voilà.
Donc vous repassez un hiver. Vous dites on reste encore alors?
Dans l'idée, on aurait voulu à un moment donné vivre ici que l'été, mais l'hiver ça fonctionne un peu moins bien. Et donc du coup, on avait l'idée de vivre que l'été ici et puis d'aller peut-être en hiver soit en Inde ou ailleurs. Et en même temps, on nous a pas forcément conseillé pour la petite parce que on veut aller dans des pays qui sont pas forcément très, bah, là où on peut attraper des bactéries, des choses comme ça.
Par rapport aux questions de pollution, est-ce que c'est important pour vous d'être ici?
On s'en est rendu compte. Hein. Saï, tu me diras, mais je parle pour toi. Quand il est rentré en Inde au mois de novembre, et il m'a dit, mais mon Dieu, mais la pollution. Parce qu'en plus, donc, il habite en Inde, dans une grande ville. Et on s'est rendu compte de quelque chose aussi. L'année dernière, on est parti en Italie, à Milan. Et on a eu chaud. Il faisait 30-35 degrés. On a eu très, très chaud. Et vraiment, et on l'a un peu mal vécu, en fait. On est revenu ici, on s'est dit, mais... En fait, c'est trop bon parce que même en été, eh ben, on n'a jamais trop chaud. On est, on a cette sensation que, hein, on s'est dit, waouh, ça fait trop du bien d'être rentré.
Comme jamais. On n'en aura pas pour bon, les châles.
Tu vas t'aider à...
Parce que les mots, là, il faut que tu les retiennes
le temps que je les passe. Eh bien oui, c'est pour Myrtille, il faut qu'elle rentre, non?
Oui.
Viens ici, joli, au pied. Oh! Au pied. Ah, elles sont heureuses, hein? Mais la vieille, là.
Toute l'acide.
On compte 12, non?
Oui, j'en compte 12 aussi.
Elles sortent tous les jours, mais elles sont contentes, là.
Plus que d'habitude?
Ah ben là, avec les cloches et tout, elles sentent que c'est les vacances, là-haut, hein.
Mmh.
Allô? Allô, allô?
Allô?
Ah, bonjour, bonjour, bonjour.
Oui, bonjour.
Ah, voilà. Enchantée.
Oui, de même.
Donc, j'ai appris l'existence du projet Alpage Sentinelle.
En fait, Alpage Sentinelle, il est parti de chez nous.
Donc, du parc des Écrins.
Du parc des Écrins, oui. Suite aux 3 années de sécheresse un peu compliquées, en fait, chez nous, 2004, 2005, 2006, surtout 2004, je pense qu'elle a lancé les choses. Et en fait, on s'est posé beaucoup de questions sur l'avenir de nos alpages qui avaient à l'époque vraiment beaucoup souffert de ces sécheresses. Et donc voilà, on en a discuté à notre commission agriculture avec des éleveurs qui étaient là, des élus, et c'est là qu'on a décidé de mettre en place un système pour... À l'époque, on parlait d'observatoire, essayer de suivre ce qui se passait et de comprendre ce qui se passait. Comment le changement climatique va impacter nos alpages? Comment la météo impacte la production d'herbe? Et comment la météo et la production d'herbe vont impacter le système pastoral en alpage? Et comment tout ça va impacter la biodiversité aussi? Et petit à petit, donc on a agrandi notre réseau de scientifiques partenaires, d'éleveurs, de bergers, et puis ça s'est étendu petit à petit à d'autres parcs, et maintenant c'est sur l'ensemble des Alpes. C'est vrai qu'on se rend compte, quand on regarde tout ce qu'on peut voir, les différents rapports des climatologues, en fait, les Alpes se réchauffent plus vite. Il y a certaines zones comme ça, sur la planète, qui se réchauffent plus vite que d'autres, et les Alpes font partie de ces zones-là. En fait, on a gagné plus de 2 degrés depuis 1950 dans les Alpes. Donc, on est un peu plus élevé que le reste du monde. Et on est même, sur le printemps et l'été, on est même à plus 2,6 degrés.
D'accord.
Au niveau des précipitations, pour l'instant, on ne voit pas forcément d'effet. Peut-être elles sont réparties un peu différemment. Moi, j'ai le sentiment qu'il y en a plus l'automne et l'été, et un petit peu moins au printemps, mais ça serait à vérifier.
Sur la question de l'enneigement, il y a des changements?
Alors oui, sur l'enneigement, il y a des changements. Alors sur la quantité, pas forcément. Ça va dépendre des années. Il y a des années où il y a beaucoup de neige, des années où il y en a moins. Mais c'est sur la vitesse de déneigement. C'est-à-dire que comme il fait très chaud au printemps, beaucoup plus chaud qu'avant, les alpages sont déneigés beaucoup plus tôt. On peut se dire, tiens, ça déneige, donc ça va pousser derrière, on va avoir plus d'herbe au final. Eh bien, pas forcément, parce qu'on peut avoir un coup de gel tardif après déneigement sur des végétations qui ne sont pas forcément habituées à subir du gel, parce qu'elles sont sous la neige, normalement. Donc, oui. Ce n'est pas forcément une bonne chose, le déneigement plus précoce.
Il y a une variabilité, vous parlez de ça, de variabilité, je ne sais pas si c'est...
Oui, c'est un des effets en fait, du dérèglement climatique, c'est là, une très forte variabilité interannuelle. On le constate surtout en fait, sur les températures, sur les précipitations, sur énormément de critères, et du coup sur la pousse de l'herbe forcément.
Est-ce qu'on pourrait imaginer que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans... peut-être plus encore, on pourrait vivre toute l'année autour de 2000 mètres. Est-ce que l'habitat pourrait changer, l'altitude de l'habitat?
Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? On pourrait imaginer, on peut tout imaginer. Hein.
On peut tout imaginer, oui, je peux tout imaginer. Ça fait partie de mon boulot, écrire et inventer des histoires. C'est peut-être un antidote à la paralysie. Mais là, j'ai du mal à me projeter. Sur la table de la cuisine, j'ai des piles de bouquins pour m'aider à écrire. Je ne suis pas sûre de pouvoir écrire des récits d'un monde où tout irait ou pourrait aller vers un mieux. Des scénarios d'un futur... désirable.
Alors, on m'a dit que vous étiez aussi historien, enfin, très sensible à l'histoire,
ah oui.
Et à la mémoire.
À la mémoire, oui. Ah oui, la mémoire, oui.
Cette mémoire, elle est fort liée à l'histoire du village.
Ah oui.
Oui, ben c'est sûr que vous, si vous me posez une question un peu... Mais les dates de naissance, tout ça, ceux qui sont nés après moi, je ne m'intéresse pas.
Oui.
Non, non. Mais ceux qui sont avant moi et ceux qui sont là-haut, qui reposent, à un an ou deux près, je sais, presque à quelle année ils sont morts. Ils sont nés, ils sont morts. À partir de 1850.
Alors maintenant, on va devoir imaginer, parce que c'est très instable. Mais...
Ça va tout s'arrêter, oui.
Pour l'agriculture,
c'est sûr.
Il y a beaucoup de...
Mais les jeunes, ils se mettent la corde au cou, là. Mais demain, avec l'Europe, comment ça marche,
ça
marche très bien. Très mal, mais ça marche très bien.
Oui.
Et bien, s'il n'y a plus de primes, c'est fini. Ils sont étranglés. Et ils ont des emprunts jusqu'à la cime des cheveux. Il y a trop le confort qui arrive. Je vais vous dire, t'es aujourd'hui enlevé ça, t'es.
Oui,
aux gens.
Téléphone.
Mais il y en a la moitié qui se suicide. Ah, moi, je ne me suicide pas. Ah là, non. Ah. Dites à un jeune de 30 ans maintenant qu'on lui enlève ça, on lui met le mulet. Et une charrue, eh ben, il sait peut-être pas de quel côté prendre la charrue.
Et s'il n'a pas le choix, parce qu'il n'a plus de pétrole.
Ah, ben, s'il n'a pas le choix, eh ben, il meurt. Ou alors il va chez les gens, il va voler. Comme aujourd'hui, ça se fait. Voilà. Pour un paquet de cigarettes ou n'importe quoi, et on vous fout un coup de couteau.
Vous ne semblez pas très optimiste.
Pour l'avenir.
On
ferme les portes avant d'en aller. Non, ils n'arriveront plus vivre. Moi, je plains les jeunes. Voilà.
L'exploitation familiale date de l'arrière-grand-père, date de mon arrière-grand-père. Quoi. Et moi, j'ai voulu faire le lycée agricole pour reprendre la ferme. Donc, c'est pour ça. Quoi. Et je me suis installé en 2012, 1er janvier 2012. Ouais. Donc, voilà.
J'ai entendu qu'il y a un aspect aussi cosmétique dans votre activité de GAEC, ce qui est très particulier.
Ah oui. Mais
ça,
non.
C'est l'idée originale de madame. Ça.
Ouais.
Mais qui a très bien marché. Enfin, qui marche très bien, quoi, on va dire. Ouais. C'est vraiment... La partie, moi, j'étais pas du tout là-dedans. Hein. Moi, c'est l'élevage, c'était les brebis, c'était les chèvres. Mon père en avait eu, c'était pas ma grosse passion. Parce que pour nous, quand on était petits, c'est un peu la corvée, aller traire le soir. Enfin, voilà, c'était vraiment pas ma passion. Et madame, ça lui plaisait. Donc, du coup.
J'ai eu mes petites chèvres pour mes deux premières chèvres à 20 ans, pour mon anniversaire. Et après, je lui ai dit, on va réussir à faire quelque chose avec.
Le climat, si, ça commence un peu à changer. Nous, ici, sur le secteur du Lot, c'est un endroit où il y avait vraiment pas de vent, quoi. Et maintenant, on a du vent vraiment tous les jours. On s'aperçoit que c'est vraiment venté, et ça sèche les terres, c'est impressionnant, quoi. Donc, mais voilà, après, par rapport aux estives et tout ça, pour le moment, on n'est pas encore trop impacté, parce que c'est encore vachement en altitude, donc ça va, mais on pense qu'il y aura quelques soucis. Si ça continue les hivers comme ça, sans neige, on aura un peu des soucis, ouais. Surtout au niveau de l'eau et tout ça.
Bah si, là, on s'est aperçu quand même cette année que même devant les maisons, c'était sec, quoi.
Je pense que le jour, il faut arroser parce que c'est vraiment sec. Je pense que l'eau va manquer aussi. Et même de faire des canaux pour arroser et tout ça, je pense que l'eau manquera. Et on voit un peu plus bas dans le département, ils sont déjà en restriction, sécheresse et tout ça. Et ça commence à faire souci. Enfin, on se dit, dans le département des Hautes-Alpes, quand même, normalement, c'est assez... C'est assez humide, quoi, donc là, c'était déjà en sécheresse, en restriction au mois de mai, enfin, c'était déjà au mois d'avril, quoi. Il faut qu'on arrive à gérer justement nos troupeaux et pas manquer d'herbe à cause de ça, et c'est vrai que ça complique encore les choses. Mais...
Est-ce que vous avez la possibilité de vous projeter par rapport à ces questions-là dans 10 ans, 20 ans ?
On ne voit pas encore exactement ce qu'il va falloir faire en plus, quoi. On n'a pas de recul, quoi, donc on ne voit pas du tout, quoi. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais... Je pense que certaines personnes pourront travailler ensemble et essayer de sortir de ce système-là, enfin de s'entraider pour essayer de sortir de ce problème de climat, quoi. Et je pense qu'il pourrait y avoir aussi des tensions, entre certains éleveurs en disant, mais oui, mais toi, t'as qu'à diminuer tes bêtes, moi je le fais pâturer plus là parce que j'ai des terrains là aussi. Enfin,
Après un mois, je rentre à Bruxelles. Je n'ai pas fini d'écrire mon histoire. La fin qui me vient en tête est très noire. Est-ce qu'elle est trop noire, trop éloignée de la réalité de celle et de ceux que je viens juste de quitter? En tous les cas, je vais devoir l'écrire seule. Le train roule. Je retourne dans la fournaise, comme cette sœur que l'on n'entend jamais.
Il y avoir des éclairs, des claquements du tonnerre faisaient trembler la terre. La température était montée les jours avant et la neige des hauteurs s'est mise à fondre très rapidement. Comme la terre était gorgée d'eau, elle n'a rien pu absorber des pluies. Les ruisseaux sont devenus des torrents, l'eau a dévalé, des morceaux de roche se sont écroulés, des pans de terre entiers ont glissé. Des laves torrentielles ont dévalé les pentes les plus fortes. Elles avalaient plusieurs mètres par seconde. Les serres et l'éolienne ont été emportées. L'eau et la boue sont entrées dans les bâtiments, mais les murs ont tenu. Nous, il ne nous est rien arrivé. Par contre, ce sont les bêtes qui ont souffert. Quand la haute vallée n'a plus contenu les pluies, l'eau s'est jetée sur le village, comme si un barrage rompait. Les habitants étaient montés se réfugier dans la forêt et ils ont assisté au déluge qui emportait tout. Les ponts, des morceaux de route, des pans de maison. Dès que ça a été possible, on a laissé les enfants et on est tous descendus. L'eau avait atteint à certains endroits le deuxième étage. La boue, les pierres recouvraient tout. C'était une vraie désolation. On a pris les chevaux, les motoculteurs, et on a commencé à déblayer. Sans les routes et les ponts, le village a été coupé du reste du monde. On a aidé à remettre en route les turbines du village. Adèle et papa ont couru d'étable en étable. Après une grosse semaine, les engins ont fini par ouvrir la route et le plus gros du boulot pour déblayer les coulées de boue a pu commencer. Ceux du village, dont les maisons étaient les plus abîmées, ont été hébergés dans la haute vallée. J'aime croire que de tels accidents peuvent nous souder. Est-ce que seule la catastrophe en est capable? La menace seule n'a pas suffi. J'ai peur qu'on n'ait pas assez de force. J'ai peur pour les enfants aussi. Peut-être qu'en grandissant au milieu de cette instabilité et de ces dangers, ils apprendront mieux que nous à y faire face. Ces derniers jours, les vents forts ont commencé à assécher une partie des terres. Tout change tellement vite.
Documentaire fiction de Claire Gatineau, avec Françoise, François, Myrtille, Jean-Cyan, Robin, Jean-Pierre et Michel Brunet, Philippe Gay, Virginie Gatineau, Frédéric Bénédan, Julien Bénard, Daniel Ray, Muriel Della Vedova, Chloé Fignon, Saï, Kiran et Nichetti, Charles et Aurore Maillet, et l'aide précieuse de Catherine Gatineau, avec Carlos Bustamante dans le rôle du frère. Prise de son, Yves Robic et Claire Gatineau. Montage et mixage, Yves Robic. Une production de Farago Productions, avec l'aide du Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.